With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Oh là là, les beaux gosses sont de sortie. Alors, preview, way too early preview de Derrick Lewis contre Cyril Gane. Les deux hommes s'affrontent en main event de l'UFC 265 le 7 août prochain à Houston, dans le Texas, bien évidemment. Toyota Center pour la ceinture intérimaire des lourds, oui mon cher Rust.
Non, j'étais sur le point de faire une blague parce que ça aurait pu faire un parallèle avec MyProtein, qui est notre sponsor, avec la Way Too Early, W-H-E-Y, mais en fait, elle n'est pas passée. Enfin, j'ai pas eu la bonne
timing.
Ouais, j'ai pas eu le timing à la tournure.
Pas eu le bon timing. Alors, bien évidemment, ce qu'on a pour le titre intérimaire se fait 3 mois après le titre, la victoire pour le titre de Francis Ngannou, et Paulie Domso avait un petit mot à dire par rapport à cela, parce que c'est vrai que le timing sur ce titre intérimaire a fait grincer quelques dents.
Ah non, non, mais c'est clair. Alors déjà, premièrement, c'est la première fois qu'une de nos vidéos a été rendue obsolète aussi rapidement, parce qu'on a sorti une vidéo en disant, bon, on a hâte de parler de Cyril Gane pour quelques temps, on regarde juste un peu la suite. Une heure après, la vidéo poubelle, quoi. C'est-à-dire, elle n'avait plus aucun sens.
On dirait le même avec, les Simpsons, avec le gérant du bar qui revient,
Ah oui, mais c'est ça, mais putain, j'étais vert. Enfin bref.
Alors j'en veux à Dana White.
Déjà d'une. Après, évidemment, tu vois, le problème, c'est que on peut avoir plusieurs avis sur une même question. Quand je me place du point de vue de la team MMA Factory, Cyril Gane, je suis content qu'il ait ce title shot. Parce que honnêtement, moi, j'y croyais pas. Je me disais, bon, les gens vont encore gueuler par rapport à sa performance face à Volkov. Il va devoir ramer à mort. Et donc là, c'est cool. Il n'a pas pris trop de coups. Bon, éventuellement, il faut faire gaffe parce qu'avec l'accumulation de fatigue, l'accumulation d'entraînement, peut-être qu'il y a un risque à ce niveau-là. Il est dans le fief de Derrick Lewis, donc c'est encore une fois, il joue pas à domicile, c'est chaud, mais tu vois, c'est cool, il a le title shot et puis la fortune sourit aux audacieux. Je comprends tout à fait pourquoi ça correspond à la mentalité de Fernand Lopez de prendre ce genre d'opportunité. C'est comme ça qu'il arrive à faire monter des mecs aussi rapidement, en fait. C'est quand même dingue qu'en l'espace de 3 ans de MMA, finalement, Cyril Gane se retrouve finalement dans un titre de champion intérimaire. Donc pour ça, je suis très content et je ne remets pas du tout en cause la décision de prendre ce combat et tout. C'était le move à faire, surtout face à un combattant comme Derrick Lewis,
mais
qui, malgré tout son palmarès reste abordable. Mais, et là, je me mets du point de vue de l'UFC, de sa façon de négocier avec les combattants, je n'arrive pas à suivre en fait cette façon de faire, en fait, de foutre le couteau sous la gorge des mecs. Et honnêtement, on a souvent cette discussion et à chaque fois, les gens viennent contre moi en disant « Mais non, mais tu critiques, mais l'UFC, franchement, sans Dana White, rien ne serait possible. Hein. » Tu vois, genre des trucs comme ça. Merci bien, tu vois. Et super, tu vois, c'est super profond comme argument. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, putain, Ngannou, il est champion depuis 3 mois. C'est un mec, on ne peut pas du tout lui reprocher d'être ennuyeux. Il met KO tout le monde. Donc, tu vois, tout le truc, il a une histoire incroyable. Enfin, je veux dire, c'est un truc, on pourrait faire 3 films sur sa vie à Ngannou.
On pourrait même faire une vidéo La Sueur.
Bah, oui, d'ailleurs, oui, une vidéo spéciale faite par quelqu'un de séduisant, d'intelligent.
et combien spécial.
Mais oui, c'est spécial. Ça. Spécial. Mais non, donc du coup, tout le blabla que les mecs nous sortent à chaque fois qu'on dit que l'UFC abuse, tu sais, le truc, oui, mais il est trop ennuyeux, oui, mais il n'a pas de star.
T'as exactement la voix de Potatoes, c'est ouf.
Mais c'est ça, mais parce que je les entends, tu vois, quand je vois ces commentaires-là, j'entends ce type de voix, tu vois, du mec, genre, merci Einstein, tu vois, il va chercher le truc, tu sais, genre. Mais là, c'est faux, parce que regardez, Ngannou, il a tout, il coche toutes les cases, et pourtant, parce qu'il refuse de faire un combat un mois, bon, après, il y a peut-être des informations qu'on n'a pas, il y aura peut-être d'autres trucs qui vont se dévoiler dans les mois qui suivront. Peut-être que que mes propos seront à remettre, en fait, replacés dans le contexte si on a plus d'informations. Mais là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils avaient un UFC complètement bancal en août. Fallait faire un headline qui a un peu plus de gueule. Et, et aussi, je pense aussi, un truc qu'on nous dit pas, c'est qu'à mon avis, Francis Ngannou, bah, il demande du pognon, quoi. Francis Ngannou, il a vu, et moi, je suis 100% d'accord avec lui. J'ai défendu John Jones là-dessus. Je défendrai Francis Ngannou là-dessus aussi. C'est-à-dire, le mec, c'est sûr que pour lui, il ne doit pas très bien comprendre comment des... Bah, c'est pas la même chose, je prends l'exemple parce qu'en fait, c'était lui qui avait fait un post Twitter là-dessus mm-hmm. en disant « Les youtubeurs gagnent je ne sais pas combien de millions, mm-hmm. nous, on fait tout, on se combat, qu'est-ce qu'on doit faire de plus ?» Et c'était pendant la négociation. Donc, je pense qu'à mon avis, ça doit lui tourner un peu dans la tête, cette histoire. Et en plus, il avait la perspective d'un super fight avec John Jones. C'est outrement plus bandant qu'un combat avec Derrick Lewis qui lui rapportera 4 ou 5 fois moins. Donc,
qu'il je pense a déjà fait en plus.
Ouais, voilà. Et puis bon, à part si ce n'est laver l'affront, je pense que ça
compte ça.
Pour Francis Ngannou, mais ça compte quand même beaucoup moins que les biftons et tout, tu vois, parce que c'est, enfin, Francis Ngannou, c'est un mec qui a connu la misère, les gars. C'est un peu un truc, un peu une position de riche de dire « Ouais, non, mais le pognon, c'est rien, le legacy, c'est cool. » Tu vois. Non, attends, pour un mec comme Ngannou, il veut nourrir ses gosses et tout, il a tout à fait raison de faire ça. Enfin, ses gosses, quand il en aura et tout, enfin, c'est une image, vous m'avez compris. Et donc, non, parce que les gens vont dire « Bref. » Et donc, voilà, cette façon de négocier me rend malade, ça me fait de la peine pour Ngannou, je trouve que c'est vraiment pas cool ce qu'on lui fait. Et ça, en dépit du bonheur que j'ai pour Cyril Gane d'avoir le titre intérimaire, je trouve que c'est vraiment pas cool le coup. Et je vais être juste à 100%. Eh ben, on met souvent le blâme, moi-même, j'ai souvent cette erreur-là de mettre tout sur le dos de Dana White, qui a bon dos parce que c'est la figure publique. Mais en réalité, d'après ce que nous a sorti Ariel Helwani et d'après ce qui ressort de plusieurs interviews qui ont eu, de Ronaldo Sosa qui en parlait pour son combat contre Hermanson et aussi de John Jones qui en parlait justement de la perspective du combat contre Francis Ngannou, il y a un nom qui revient, quelqu'un qui est apparu finalement dans l'UFC avec la prise de possession de WMIMG, c'est le fameux Hunter Campbell qui est le chef advisor et qui est aussi l'avocat de l'UFC. Et paraît-il, d'après ce que dit Ariel Helwani, c'est à prendre au conditionnel tout ça parce que c'est les sources d'Ariel Helwani, que c'est vraiment lui qui a adopté cette stratégie de vraiment tout le temps menacer avec les titres intérimaires. Tu vois. De dire « Ah, tu veux pas combattre, bon, bah, titre intérimaire. » Ce n'est pas ça le but d'un titre intérimaire. Un titre intérimaire, c'est quand le combattant ne peut pas combattre pendant des années et tout. Ce n'est pas au bout de 3 mois parce que tu ne nous obéis pas, on met un titre intérimaire. Donc voilà, donc je décharge un peu Dana White. De toute façon, l'UFC, ce n'est pas un esprit de la ruche. Ce n'est pas Dana White qui contrôle tout ça et qui prend toutes les décisions. C'est un business tellement énorme, donc forcément, il y a différents acteurs. J'attire votre attention sur Hunter Campbell. Je pense que c'est un nom qui reviendra de plus en plus souvent parce que même s'il ne donne pas d'interview et qu'il reste un peu dans l'ombre, c'est un peu l'éminence grise, hein, le riche.
Mais qui revient déjà, hein, d'ailleurs. C'est ouais. Même qu'elle
là, forcément,
en a parlé.
Ouais, bah forcément, parce qu'il prend de l'importance. Et je pense progressivement, Dana White, à un moment donné, il faudra bien qu'il rende la place à un moment donné. Et donc, il y a déjà, finalement, on se rend compte que le processus de prise de décision à l'UFC, il est faite par plusieurs personnes, ce qui est logique, hein, dans ce type de business. Donc voilà, je suis dégoûté pour Ngannou, je suis content pour Cyril Gane, et Hunter Campbell, jeté à l'œil. Voilà, c'est ça.
Damn.
Voilà, pour ce que je voulais en dire.
Exactement.
Oh, sinon, my. Tout dans votre vidéo. Donc,
Oh me, oh my. Bien, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le sportif après la mise en garde de Pauly Domso. La planète MMA tremble. Alors,
frémis.
Alors, donc Derrick Lewis, Cyril Gane. Personnellement, je pense que ça va être une promenade de santé pour Cyril Gane, qui est intelligent, qui ne fera pas les erreurs que les autres combattants font en affrontant Cyril Gane. Quand je dis les autres combattants, c'est ceux qui sont dans le niveau, on va dire, top 5, top 7 mondial. Je prends l'exemple de Mark Hunt, je prends l'exemple de Junior Dos Santos, qui n'était pas prime Junior Dos Santos, qui n'était pas non plus prime Mark Hunt, mais qui pourtant, à chaque fois, ont réussi à faire abandonner Derrick Lewis, parce que tout simplement, Derrick Lewis, quand on gère bien, et bah, ça se passe extrêmement bien pour les combattants. Et bien évidemment, regardez l'exemple de aussi Alexander Volkov. Sans son erreur de fin de combat, bah, il allait vers une décision unanime très tranquille.
Ouais, bah, puis Curtis Blaydes, s'il n'y avait pas eu ce shoot sans aucun setup, bah, probablement qu'il s'en serait sorti aussi, il s'en sortait bien. Et c'est vrai que, ouais, même.
On avait eu une magnifique tirade aussi de Pauly Domso, hein, sur ce combat-là.
Ouais. Légendaire. Mais c'est vrai que oui, c'est ça, en fait. C'est ça le souci, c'est que il t'endort tellement Derek Lewis qu'en fait, au bout d'un moment, tu, toi-même, tu es en mode bon, on y va ou... Et du coup, tu fais une erreur. Et, ou... enfin, c'est très étrange, les combats de Derek Lewis. Il se passe quasiment rien de la part de Derek jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Et en fait, tu te réveilles à l'hôpital. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais effectivement, bah, comme tu l'as dit, Guillaume, le truc, c'est que même des light heavyweight, alors c'est sur un style de combat différent, en la personne de Ilir Latifi, oui, il a perdu le combat d'Ilir Latifi, mais en réalité, il l'a gagné, à mon sens. Donc en fait, il y a énormément de gens qui ont battu Derek Lewis et qui l'ont battu de façon assez gestionnaire et tranquille. Le souci, c'est effectivement quand tu fais une erreur ou quand Derek Lewis... En fait, non, c'est vraiment surtout quand tu fais une erreur.
Quand tu fais une erreur, parce que Derek Lewis, il ne met jamais la marche avant. C'est...
Bah ouais.
Et peut-être qu'il y a eu ce combat... Pardon, ouais.
Non, non, bah, j'allais juste te dire, et effectivement, quand il met la marche avant, il fait parfois des trucs qui, en plus, n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'il va lancer des ciseaux sautés, machin, qui n'ont aucun intérêt et qui n'avancent à rien. Donc, en fait, à part quand il fait ces trucs-là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à craindre. C'est assez horrible. Il n'y a rien à craindre, sauf un truc, mais ce truc-là a terminé tout le monde, en fait. Enfin, c'est chaud, quoi.
Ah non, ouais. Pardon, je te laisse la parole.
Ah oui, non, parce que tu allais dire un truc, Guillaume, ouais.
Oui, c'était sur ce fameux combat Blagoy Ivanov Derek Lewis, où là, pour le coup, Derek Lewis a été extrêmement actif, Blagoy Ivanov aussi. Donc, c'était finalement un combat, je vous invite d'ailleurs à tous à regarder ce combat-là, où on voit ce que ça donne quand Derek Lewis affronte un mec hyper durable, partenaire d'entraînement de Francis Ngannou, Blagoy Ivanov. C'était monstrueux. Au Madison Square Garden, où là, en mode brawler, quoi. Les deux étaient au centre de la cage et ça envoyait comme jamais. Donc voilà, on peut avoir aussi un Derek Lewis qui soit actif de ce côté-là.
Ouais, bon, ouais.
C'était non, face à Blagoy Ivanov. Hein.
Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, de mémoire, j'aurais donné à Ivanov
aussi. Oui, complètement. Ouais.
Bref, sans pour autant réduire l'effort de Derek Lewis, on aimerait qu'il soit comme ça plus souvent. Alors, c'est un peu un mystère pour moi, Derek Lewis, et comme je l'ai dit dans un précédent podcast, je crois que je me suis foiré sur tous les pronos. Quand il y a Derek Lewis dans l'équation, je me trompe, mais vraiment avec une régularité d'horloge suisse, donc ça fait un peu peur. Et le truc, c'est que, évidemment, pour quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la technique comme moi, c'est très frustrant de regarder Derek Lewis parce que tout ce qu'il fait n'a pas de sens en fait. Mais c'est juste qu'il a une telle physicalité qu'il a besoin d'une opportunité, il la prend. Et même au sol, quand il se relève, quand il fait des trucs, il n'y a pas de technique, quoi. Le mec juste décide de se relever à un moment donné, bah, il se relève. Et c'est aberrant, quoi. D'ailleurs, il y a des compilations sur YouTube de Derek Lewis qui décide de se lever. Où tu vois, il est sous Tibura, tu vois, qui est en monte, et il arrive à se lever. Mais tu sais, pas en faisant, tu sais, la crevette, en faisant, tu sais, en prenant une garde, en installant une Delariva et tout. Non, que dalle, tu vois, genre vraiment, il se lève, tu vois. Et c'est comme ça. Donc, c'est une force hein, de la part de Derek Lewis. Et c'est vrai que pour moi, c'est difficile à analyser parce que je n'arrive pas à l'expliquer, tu vois. Mais bon, il le fait et il gagne. Alors, en fait, il gagne quand. C'est étonnant parce que c'est le premier combattant sans cardio qui arrive à battre les mecs sans cardio, enfin, qui ont plus de cardio que lui. C'est-à-dire que lui ne leur met pas la pression, ne les fatigue pas particulièrement, mais comme il est toujours là, au troisième ou même plus loin vers la fin du combat, bah, et que les adversaires sont en place face à lui, bah, dès que tu es statique en fait, face à Derek Lewis, tu es mort. Ça, je dois bien lui reconnaître un truc. Quand tu commences à échanger avec lui et que tu es à distance de boxe, bah, c'est vraiment un échange perdant. On se souvient même de Travis Brown, pareil, qui avait connu le même destin, c'est comme ça. Donc, c'est cette force-là, il saisit les opportunités, il est dur mentalement, Derek Lewis, parce qu'il est toujours dans le combat. Il n'y a jamais un moment donné où que, bon, allez,
bah, je lâche. Quoi, contre GDS, par exemple, il a abandonné.
Oui, clairement. Il a abandonné.
Ouais, mais parce qu'à mon avis, c'est parce qu'il ne veut pas prendre de KO.
Oui, c'est ça,
je pense. Bon, la mentalité aussi qu'a Derek Lewis, c'est que c'est quand même un mec... moi, j'aime bien... Alors, étonnamment, je ne l'aime pas vraiment dans la cage. Je n'aime pas trop regarder ses combats. Je ne vous le cacherai pas. Mais en revanche, j'aime bien le suivre à côté parce que c'est vraiment un journeyman, mais dans le sens... il l'assume totalement. Il s'en carre complètement du titre. Il s'en tape. Ce qu'il veut, c'est faire de l'argent et...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
et il assume complètement ce rôle de, on va dire, de combattant employé, quoi. C'est marrant à suivre parce qu'il a beaucoup d'humour par rapport à ça, et donc c'est assez drôle. Donc étonnamment, à mon avis, il veut se préserver. Donc quand il sent vraiment que le combat est perdu de chez perdu, pareil contre Mark Hunt, il n'était pas KO, tu vois, mais bon, il abandonne. Mais tant que le combat dure et qu'il n'est pas trop sérieusement blessé, notamment contre Volkov, bah, il est toujours présent et il va quand c'est même jusqu'à la dernière seconde chercher à t'allumer, tu vois. Et même contre Curtis Blade, la plupart des poids lourds, ils auraient abandonné avant qu'il retourne le combat en sa faveur. Donc c'est une grande force. Maintenant, il y a des déficits techniques sur lesquels il n'arrive pas, en fait, à combler, en fait, le vide par cette force-là, par cette force de puissance et par cette force de chaos et par cette force mentale. Et notamment les adversaires qui ne restent pas en face de lui. Honnêtement, tu vois, tu prends Mark Hunt, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait deux pas de retrait à chaque fois que Derrick Lewis s'engageait, et ça suffisait pour le mettre hors d'atteinte, pareil pour Junior Dos Santos. Et franchement, c'est inexcusable de perdre contre Junior Dos Santos ou Mark Hunt à ce niveau-là, tu vois. Parce que c'était les fins de combat, c'était les derniers combats de ces combattants-là, et c'est pour un mec qui est du top, qui est combien, top 3 maintenant, mondial,
ouais, qui est deuxième
mondial. C'est, t'as pas le droit, tu vois, de perdre ces combats-là, t'as pas le droit. Et ça prouve, en fait, qu'il a vraiment un style très très incomplet. Donc c'est intéressant, le combat est intéressant parce qu'il y aura toujours la menace. Sur les 5 rounds, on va pas être tranquille, les amis. On va vraiment être comme ça, parce qu'il peut mettre KO de Cyril Gane, hein. C'est une possibilité. Bah oui. Mais après, Cyril Gane, il a tout ce que déteste Derrick Lewis aussi. Des kicks au corps, des déplacements en veux-tu, en voilà. Un jeu du bras avant qui l'empêche de trop s'engager, parce que
Derrick Lewis, et qui ne s'arrête pas d'ailleurs, les déplacements, mon cher Paulie Domson,
et qui ne s'arrête pas, tu vois, et ça c'est un truc de ouf. Et l'intelligence aussi de combat qui fait que, à mon avis, il prendra pas de risque. Donc moi, je vois deux issues à ce combat. Minoritairement, je vois Derrick Lewis nous faire une Derrick Lewis, c'est-à-dire perdre le combat jusqu'à ce qu'il le gagne de manière tonitruante et fracassante. En plus, il sera galvanisé par la foule qui sera là pour lui. Donc ça, c'est quand même un gros plus, il faut pas le nier. Ou alors, il se fait scouler, mais pire que Jairzinho Rosenstruck pendant 5 rounds. Voire même arrêter au 4e round parce qu'il y aura eu une accumulation de dégâts et qu'il lâchera l'affaire. Donc voilà mon point de vue sur ce combat, en fait.
Ouais, mais en fait, je vous rejoins. Mais en fait, le seul truc qui me fait peur, parce qu'en fait, en soi, je pense que là, tous les experts seront d'accord avec cette analyse, en fait, je pense. Parce que je pense qu'il n'y a pas un seul analyste sur la planète qui va être en mode je pense que techniquement, Derrick Lewis va nous surprendre face à... C'est pas possible. C'est juste, c'est physiquement impossible. Il n'a pas la technique, en fait. Mais moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est même au-delà de tout ça, parce que je me dis, même si Cyril domine Derrick Lewis, ce qui risque de se passer... Alors, la question, c'est effectivement, est-ce qu'à un moment donné, il y a un chaos ou pas de la part de Derrick ? Mais ma question, c'est surtout, en fait, de me dire, si ça se passe très bien et que pendant 5 rounds, Cyril fait du Cyril, beaucoup de front kick, parce que je pense qu'il a peut-être plus intérêt à mettre des front kick que d'essayer de faire des trucs, que d'essayer de faire des kicks circulaires, etc., où il prendrait un peu plus de risques. Là, tranquille, non seulement ça crève Derrick Lewis, en plus, il reste à une distance et dans une position où il ne prend pas de risques, etc., une posture. Mais en fait, ma question, c'est, je ne sais pas si Cyril pourra se faire respecter en termes de puissance de Derrick Lewis, et donc, quid de à quoi ça ressemblera après 5 rounds, si ça se passe bien, si Cyril a réussi à entre guillemets, voler comme un papillon et piquer comme une abeille, mais sans réussir à terminer Derrick Lewis. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire, si ça se passe comme ça, je ne sais pas si les fans... En plus, ce sera à Houston, donc il y aura, comment dire, les gens qui écouteront ça à la télé seront influencés par le fait qu'il y aura peut-être des huées, des trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas de chaos, parce qu'il n'y a pas de machin. Et moi, ça me fait un peu peur de me dire, j'aimerais pas que Cyril gagne la ceinture sous des huées parce qu'il gère le combat, ce que, perso, je veux que ce soit le cas. Hein. Moi, personnellement, je ne veux qu'une chose, c'est que Cyril gagne le titre. Donc, honnêtement, je crois que je m'en fiche. Donc, personnellement, je veux qu'ils gèrent le combat, si c'est ce qu'ils font. Je le souhaite le plus au monde, parce que ce que je veux voir, c'est Cyril avec cette ceinture. Je veux cette image. Mais j'ai peur pour la suite, si c'est le cas. J'ai peur qu'un combat qui n'aura pas eu de moment spectaculaire, où Cyril aura géré et l'aura jabé et front-kické à mort, sans le finir et sans avoir gagné le respect d'Eric Lewis... J'ai peur de l'image que ça pourra causer pour la suite pour Cyril.
Moi, pour le coup, je pense vraiment que Cyril peut le finir. Je pense vraiment qu'il peut le finir sur les, à mon avis, 4e ou 5e round. Parce que ce soit Junior Dos Santos ou Marken, il y avait ses problèmes de dos de Derrick Lewis, mais c'est vrai que contre Junior Dos Santos, à chaque fois que tu veux accélérer contre Derrick Lewis, enfin, sérieusement accélérer contre Derrick Lewis, une fois que tu l'as bien touché, il n'y a plus justement cette volonté de rester dans le combat dont Paulie Domso parlait. Quand c'est contre Volkov, quand c'est contre les autres gars où il arrive justement à avoir ses comebacks, il perd le combat, mais il ne s'est pas pris d'énormes dommages. Quand c'est Marken ou quand c'est Junior Dos Santos, bah là, on voit quand même qu'il y a plusieurs fois où il a été un peu chancelant. Et contre Blago Ivanov aussi, il n'avait pas été, il n'a jamais été mis knockdown, mais il était sonné. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu un combat complètement dingue où vraiment, c'était n'importe quoi des deux, enfin, n'importe quoi des deux côtés, de la part de Derrick Lewis parce qu'il s'était fait sonner. Et je pense que contre Cyril, il y aura cette frustration qui va jouer énormément parce que je pense vraiment qu'il ne va pas voir le jour tout simplement. Et en plus, à mon avis, je pense qu'il va vraiment se prendre de sérieux dégâts. Et donc, au 4e, 5e, Cyril va avoir l'opportunité de le finir.
Et du coup, tu penses le finir debout ?
Ah bah oui. Ah oui, pardon. Le finir debout. Et je pense aussi, là, pour le coup, il y a une sérieuse carte à jouer au sol parce que je me souviens aussi du dernier combat. Certes, c'est pas, il n'a pas le pédigré que... Enfin, Cyril Gane n'a pas le pédigré qu'à Alexei Olynyk au sol, mais je me souviens du dernier combat Alexei Olynyk contre Derrick Lewis. Au sol, c'était quand même très, très chaud pour Derrick Lewis, hein, qui avait même échappé à... C'était une clé de bras, c'est ça ? Je crois.
Il me semble que c'était un triangle.
Un triangle. Et donc.
Mais ça, justement, ça me fait peur perso, parce que je sais pas justement. Et c'est pour ça. Oui, le percute. En fait, c'est surtout que je, par rapport à ce que tu viens de dire, et c'est pour ça que l'exemple que tu choisis, à mon sens, est vraiment intéressant, c'est que Olenik.
Il a perdu quand même.
Il a perdu. Et il n'a pas, il me semble, été proche véritablement de finir Lewis, hein, il me semble.
Ah non, pas du
tout. Ouais, voilà, il avait vraiment enclenché au maximum son arm triangle choke. Et pourtant, bah, après, il faut voir aussi que, comment dire, la nuque de Derrick Lewis, c'est une cabine téléphonique. Hein. Enfin, c'est compliqué quand même. Donc, mais il n'a jamais été ne serait-ce que proche. Si vous entendez un bruit, c'est ma fenêtre qui coulisse, c'est normal. Il n'a jamais été ne serait-ce que proche de réussir à finir Derrick Lewis, alors qu'on sait, la puissance qu'il est capable de dégager le piton. Alexei Olenik, et c'est pour ça que même si Cyril est connu, et il est connu pour avoir un squeeze, une pression qui est énorme, même sans être une ceinture noire de JJB, quand on voit ce qu'il fait à Pessoa, même Bisping, comment dire, pour reprendre ce que disait Fernand, même Bisping a été surpris que la finition passe, parce que théoriquement c'était pas exact au niveau des positions. Seulement Cyril a une telle pression avec les bras que en gros il peut finir n'importe qui. Mais si Olenik, qui est ses limites, c'est son as de réussir à soumettre les gars comme ça, n'a pas en position fully locked réussi à terminer Lewis, j'ai du mal à voir Cyril réussir aussi quand même. Hein.
Ouais, oui, pareil. Non, moi je ne vois, vois pas finir Derrick Lewis au sol. Hein. C'est juste que je voulais dire que je pense que si Cyril se met à tenter des takedowns, je pense qu'il pourra en plus mettre Derrick Lewis au sol.
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Alors après, moi, je trouve que de plus en plus, surtout depuis ces combats contre Latifi, contre Ivanov, c'est peut-être pas la meilleure carte à jouer. En fait, je pense que même debout, parce que comme il se relève et après dans le scrambling, il suffit qu'il essaie. En fait, il vit dans ces moments de chaos, en fait, Derrick Lewis, où il peut installer un gros coup. Je me souviens contre Tibura, c'est comme ça qu'il a eu. Tibura l'a dominé de la tête et des épaules pendant tout le combat. Et à un moment donné, bah, il y a une phase comme ça de scramble et Tibura se relève et il prend pas garde et il se prend un uppercut et c'est terminé quoi. Donc moi je pense pas que ce serait la meilleure carte à jouer pour Cyril Gane, d'autant que ça va être fatigant d'essayer de le mettre au sol et que face à Volkov c'était dangereux de rester. Enfin, moi je pense qu'il y avait des dangers debout parce que et surtout dans la construction parce que Volkov il peut agresser sur plusieurs pas, il peut envoyer des kicks et tout. Enfin il a un jeu qui est complet. Derrick Lewis, honnêtement, si tu commets pas d'erreur et que tu te mets hors de portée à chaque fois qu'il avance vers toi, il y a vraiment très peu de chances qu'il représente une menace pour toi. Le truc, c'est que effectivement, je pense que la plupart des adversaires font cette erreur face à Derrick Lewis, c'est qu'ils se disent ah merde, en fait, c'est facile de le toucher, c'est facile de le battre,
ouais.
Et ils s'exposent et à ce moment-là, ils se font toucher. Donc en fait, va y avoir en fait une question que va devoir se poser Cyril Gane, c'est est-ce que je gagne en gérant ? Moi, je pense qu'honnêtement, c'est le moins risqué et il peut tout à fait le faire et il y a de grandes chances qu'il le fasse quand même, hein, honnêtement. Ou alors, est-ce que j'essaie de terminer le travail ? Et s'il termine le travail, moi, je serais d'avis à ce qu'il utilise un peu plus son passif en boxe thaï que rester, que d'essayer de le terminer, tu vois, sur un échange en boxe où bah, Derrick Lewis peut exploser sur un uppercut ou un truc comme ça. S'il va, si je préférais qu'il termine un peu comme il a terminé Junior Dos Santos, avec des coudes et avec. Et là, je pense qu'il peut le faire parce que moi, je me souviens des échanges contre la cage de Mark Hunt, qui est plus petit en plus. C'était vraiment n'importe quoi ce combat que Derrick Lewis et qui envoie des énormes coups de coude parce que Derrick Lewis n'est plus là et il n'a pas les armes en fait pour. Pour cette distance vraiment de clinch. Ouais. Et ça, en revanche, s'il gagne, il les a. Donc, moi, je pense que tu cuisines la viande pendant 3-4 rounds et au moment où le steak est bien attendri, là, tu y vas et, en clinch et là, il a ses chances. C'est comme ça que je verrai un game plan pour lui. Après, le sol, honnêtement, c'est dangereux parce que bah, il va se relever. Il s'est relevé contre tout le monde. Mm-hmm. Comme tu l'as dit, il a survécu à Olenik. Olenik, c'est quand même un mec qui a passé sa vie à faire ça, quoi, des soumissions. C'est son... Mm-hmm. C'est son truc, tu vois. Il a, je sais pas combien, 50 ouais, non, par soumission, j'en sais rien, j'exagère sûrement, mais c'est délirant. C'est le mec qui passe des Ezekiel Shock, s'il te plaît, tu vois. Genre, normalement, que passer les ceintures blanches de BJJ, tu ne passes plus du tout ce truc-là, tu vois. Enfin, ouais, et donc, c'est... Donc, voilà, donc je pense que ce ne serait pas la voie forcément à jouer. Je pense qu'il a les armes debout pour déjouer Derrick Lewis. Alors, en revanche, ça ne va pas plaire, mais de toute façon, les combattants qui ont une approche comme ça, scientifique du combat et qui ont une approche aussi sportive du combat, on en discutait avec Guillaume, mais pas genre « je vais te défoncer, je vais te tuer » et tout, tu vois, ben, ils ne plaisent pas aux masses. Ça inquiète un petit peu parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un peu un sport catharsis, quoi. Tu le regardes aussi pour exprimer des pulsions que tu ne peux pas exprimer dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas casser la gueule à ton voisin parce qu'il te casse les couilles avec l'aspirateur le dimanche matin. Ben, tu regardes l'UFC et puis voilà, tu vois, t'évacues tes trucs. Et tu vois, de voir un mec qui dit « bah non, je fais un sport, moi et je gagne quoi qu'il arrive », c'est vrai que ah, ça te coupe la chic, tu vois, quelque part. Et ce que j'ai à répondre à ça, c'est que bah certes Cyril Gane est comme ça parce que c'est son style, mais je vais vous dire, Derrick Lewis c'est pareil. Derrick Lewis a juste eu la nature, la pourvue, si tu veux, de certains attributs qui font que c'est marrant à vous, pour vous, de regarder un gars qui est pas forcément le plus ripped possible mettre KO des géants, tu vois. Mais en réalité, dans son attitude, Derrick Lewis, il prend pas le truc vraiment au sérieux non plus. Hein. C'est vraiment un salaryman, hein, Derrick Lewis. Moi, ça m'éclate et ça me fait marrer d'entendre de voir des fans, surtout francophones, qui regardent pas les interviews de Derrick Lewis parce qu'il parle pas anglais, dire ouais, mais lui, c'est un guerrier. Enfin, tu parles, s'il te plaît. Ouais, il a juste un peu plus de mordant que la plupart des autres journeyman et il est drôle et il a du punch. Mais en vrai, c'est vraiment un salaryman, Derrick Lewis. Et je le dis avec tout le respect et toute l'admiration possible à ce niveau-là. Moi, je n'y attache pas un jugement péjoratif à ça. Pas du tout. Donc voilà.
Messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette way too early preview de Derrick Lewis contre Francis Ngannou contre Cyril Gane.
Lapsus.
Ce combat n'arrivera jamais. Enfin, cette revanche n'arrivera jamais. On fera bien évidemment un point bien plus détaillé à l'approche du combat. En tout cas, vous le savez, hein, nous sommes patriotes et pas du tout impartiaux pour ce combat. Big shout out.
Aucunement.
Big shout out à Tsume, sponsor de la sueur. Paf, vous pouvez voir notre super Broly. Notre Rusty B est en train de préparer un post magnifique avec Saitama.
Ah oui. Ah oui.
Trop court. Avec Saitama, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 45% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. We are out of this.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez la sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.